en ce 18 mars, c'est la fête, chacun le sait, je pense, de Saint Cyri de Jérusalem, évêque de Jérusalem, docteur de l'Église, qui est mort en 387. Par un souci de vous intéresser peut-être davantage, du moins certains d'entre vous, non pas que ce soit pas intéressant, Saint Cyri de Jérusalem, loin de là, je le reporte à l'an prochain. Je crois bon de parler aujourd'hui d'un laïc, un père de famille, un homme comme tout le monde, et en plus de ça, bien peut-être un peu spécial parce qu'il était très riche, ou du moins il avait une bonne fortune, et qui a vécu en France, mais qui était né à la Martinique, d'une famille française établie là-bas depuis quelque temps. Et il a vécu à Tours, qui est une ville que l'on connaît bien, nous, les Québécois de souche, puisque beaucoup de nos ancêtres viennent de là. Tours a une importance énorme, Marie de l'Incarnation en particulier, qui était une Ursuline de Tours. Et alors donc, je vais vous parler de cet homme qu'on appelle le Saint-Homme de Tours, qui est mort en 1876, et que l'on connaît sous le nom de Monsieur Dupont, tout simplement. C'était son nom, d'ailleurs, Monsieur Louis Papin Dupont, connu sous le nom, donc, de Monsieur Dupont. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai dit qu'il était d'origine française, ce Monsieur Dupont. Il était créole. Il est né, comme je vous ai dit, à la Martinique, le 24 janvier 1797. Il est de famille aisée, vraiment bien établie, vous allez voir. Il peut compter sur sa famille pour se tailler un brillant avenir, et dès son enfance, bien, on raconte plusieurs anecdotes qui laissent entrevoir non seulement sa franchise, mais aussi la limpidité de son âme. Très jeune, il a une âme très limpide. Il a aussi un esprit vivace. Il a un caractère plein de vigueur aussi. Et ça ne change rien à sa question de la foi. C'est un chrétien ordinaire, quoi, durant des années. Il est plutôt tiède que fervent. Et il va faire des études universitaires à Paris, donc il traverse l'océan Atlantique, Il devient l'ami de plusieurs jeunes gens qui dirige une œuvre de charité. Une œuvre de charité, il s'occupe surtout des pauvres petits ramoneurs. Vous savez, les gens, ces pauvres garçons là, qui sont tellement petits qu'on peut les utiliser pour nettoyer les cheminées. Ils deviennent tout noirs de suie. Ils sont terribles, ces pauvres enfants, qui font un travail effroyable pour une bouchée de pain, et qui n'ont rien, qui demeurent très pauvres. On les exploite. Alors, ces jeunes gens désirent les aider, et c'est à cette époque que M. Dupont situe sa conversion. Il rompt, tout d'un coup, avec toutes les mondanités, pour se donner totalement à toutes sortes d'œuvres de charité. Alors, c'est extraordinaire parce que je vous ai dit qu'il y avait une vigueur de caractère. Bien, alors, il ne reviendra jamais sur sa décision. Il écrit d'ailleurs, « Tout d'un coup, la lumière se fit bien grande à mes yeux. » Et ce rayon de lumière me faisait voir l'importance de la vie chrétienne et l'indispensable affaire du salut. C'est une expression qui peut-être désarçonne certains qui comprennent pas l'affaire du salut. Qu'est-ce que c'est qu'un salut, Disons, c'est l'indispensable affaire de la libération intérieure, se libérer. Adhérer tellement avec Jésus-Christ que sans cesse on va de l'avant. Même si on tombe, on se redresse. On va de l'avant, on est libéré, on est en amour, comme on dit vulgairement, avec Jésus. Et étant en amour avec Jésus, bien c'est la vie chrétienne qui s'empare de nous. Ça change tout. Alors on l'admet immédiatement, Louis Dupont, dans la congrégation de la Sainte Vierge. Ça peut sembler bien vieux jeu aujourd'hui, la congrégation de la Sainte Vierge. C'était une association qui était assez vivante, même dans mon jeune âge, à Brébeuf, ça avait encore une certaine vie. Et ses lettres et ses entretiens, d'ailleurs, témoignent de sa grande dévotion à la Vierge. Une dévotion qui va garder toute sa vie. mais qui sera secondaire par rapport à sa profonde dévotion à la messe, à l'Eucharistie et au Christ, particulièrement dans la Sainte Face, vous verrez tout à l'heure. Donc, Léon Dupont, ou Léon Papin Dupont, son vrai nom, c'est un nom double de famille, Papin Dupont. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est paru, qui est admirable, je vous le recommande, d'Odile Mettetoro, une autre avec un nom double. Peu importe le nom de l'auteur, pour tenir un simple laïque, Léon Papin Dupont, le saint homme de Tours, 1797-1876. Et c'est un bouquin assez volumineux, publié chez Hérault. H accent aigu, R-A-U-L-T, en 93. C'est un livre très, très, très bien fait pour quiconque s'intéresse à la spiritualité du 19e siècle et à ce personnage qui est au cœur de cette spiritualité du 19e siècle, qui demeure une spiritualité où on découvre énormément d'amour pour Dieu. Alors donc, Léon Dupont brave l'opinion publique. Il demande à se confesser en vue de communier souvent les dimanches ordinaires. C'était plutôt rare à l'époque. Et il est reconnu rapidement, et évidemment pour sa grande générosité aussi. Il lui arrive de vendre même ses chevaux. Et même il a vendu un jour son carrosse, sa voiture si vous voulez. Il dépense sans compter pour aider les déshérités. Après la mort de sa mère, il va consacrer toute sa fortune, qui est assez vaste, aux pauvres et aux œuvres de charité. Il a un sens aigu de la justice. Par exemple, il découvre un jour qu'il a commis une erreur, quoi. Il a accusé injustement l'un de ses serviteurs. Alors, M. Dupont, chose absolument exceptionnelle et extraordinaire, il se jette aux genoux de son serviteur, lui demande pardon. Ce qui étonne évidemment tout le monde, M. Dupont ne sait plus finalement ce qu'il devrait faire de sa vie. Il se demande quelle vocation choisir. Il sent tant de désir et d'élan, la prêtrise, la vie religieuse, et après avoir consulté plusieurs prêtres, M. Dupont finalement décide d'épouser une jeune fille merveilleuse de 24 ans. Il en a 30. Mais son épouse va mourir quelques années plus tard. Elle avait, chose assez étonnante, exigé après un certain temps de son mari, la promesse de confier aux Ursulines l'éducation de leur fille de 8 mois, car comme lui, elle tenait énormément à ce que l'éducation, à une époque où les parents assez à l'aise ne recherchaient pas nécessairement ça, une éducation religieuse par des sœurs cloîtrées, les Ursulines étaient cloîtrées. Elles étaient cloîtrées à Québec d'ailleurs encore tout récemment. Alors cette promesse, sa santé fortement ébranlée, amène M. Dupont à s'installer en France. Alors il quitte la Martinique. En 1834, il s'installe à Tours, plus précisément. Sa mère l'accompagne. À Tours, il va à la messe tous les jours, ce qui surprend tout le monde. Il aide les gens en difficulté. Il fait à l'occasion des pèlerinages aussi. Ce qui surprend encore beaucoup plus de monde, parce que des hommes qui font des pèlerinages, c'est plutôt rare, c'était les femmes. Il écrit d'ailleurs un livre à ce sujet. Ces pèlerinages sont des vrais pèlerinages. Il les fait à jeun. Il les fait surtout à pied. Il est l'un des premiers à se rendre sur les lieux de l'apparition de la Salette. C'est dans le sud de la France, dans les Alpes, je vous en parlerai un jour. Car c'est un grand anniversaire cette année, à la Salette. Il interroge d'ailleurs les deux voyants de la Vierge à la Salette. Et il se fait tout de suite, comme Léon Blois, le fameux écrivain tonitruant Léon Blois, dont je vous parlerai, j'espère, bien un jour. Donc, il se fait tout de suite un fervent propagandiste du message de la Salette, dont la teneur amène une religieuse de Tours, une carmélite de Tours, sœur Marie de Saint-Pierre, et lui, a fondé l'œuvre des prières réparatrices. Réparatrices, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'appellerais ça des œuvres consolatrices. C'est-à-dire, c'est de prendre en compassion, si on veut, cette souffrance énorme que Dieu sans doute ressent. Il y a des livres sur la souffrance de Dieu. Dieu souffre-t-il? La souffrance de Dieu. De très beaux livres sont parus récemment par de grands auteurs, par de grands théologiens. Et cette souffrance que Dieu ressent devant notre mépris à son égard, devant le fait que nous ne l'écoutons pas alors qu'il nous aime, eh bien, ils veulent réparer cela. Ils veulent l'aimer 2 fois, 10 fois plus, en le lui prouvant par, disons, des gestes comme la pénitence que l'on peut pratiquer, un certain jeûne, mais qui se fait dans l'amour. C'est pas un jeûne qui se fait dans le masochisme, c'est un jeûne qui se fait dans l'amour pour libérer le corps, pour prier davantage, pour prier plus profondément, pour être plus présent à Dieu, pour l'aimer plus. C'est ça. Parce que si en ça, si on pense que c'est une réparation dans le sens qu'on lui offre des pénitences pour lui faire plaisir, c'est pas vraiment ça. Alors, nous sommes dans les années 1830, et quelque temps plus tard, M. Dupont passe à travers une épreuve terrible. Sa fille, qui est alors âgée de 15 ans, commence à être, d'après lui, fascinée un peu trop par la vie mondaine. Mais je crois, à mon avis, enfin, j'ai lu pas mal là-dessus, je pense qu'il exagérait un peu. Entre les cas, c'est pourtant une enfant pieuse, intelligente. Alors, M. Dupont s'imagine, oui. Il s'imagine des choses. Il s'inquiète, en tous les cas. Alors, ce pauvre père, qui connaît bien la nature ardente de sa fille, pose un geste extrêmement audacieux. Il s'écrie, « Mon Dieu, si vous prévoyez qu'elle doive s'écarter de la droite voie, je consens à ce que vous me l'enleviez, plutôt que de la voir se livrer aux vanités du siècle. » En somme, il préfère sauver sa fille plutôt qu'elle ne se perde. Or, sa fille meurt bientôt de la fièvre typhoïde et il est écrasé de douleur. Mais s'il accepte, il en fait un don extraordinaire à Dieu. Et comme Job, dans l'Ancien Testament, il peut dire « Dieu me l'a donné et Dieu me l'a ôté, que son saint nom soit béni ». Mais il va pleurer sa fille très longtemps. Il faut dire que sa femme était morte peu de temps après avoir mis cet enfant au monde. Alors il se retrouve seul. Cette épreuve est pour M. Dupont l'occasion d'un nouveau départ. Alors là, il se détache de tout. Il se consacre entièrement et à la prière et aux œuvres de charité. Il jeûne, il se mortifie aussi. Mais sans perdre la boule, d'un homme intelligent et cultivé, il aide financièrement au maintien et à l'expansion de plusieurs communautés religieuses, dont les fameuses Petites Sœurs des Pauvres. Il s'attache énormément aux Petites Sœurs des Pauvres. Quelle communauté admirable. Je vous ai déjà parlé de leur fondatrice. Monsieur Dupont institue à Tours l'adoration durant la nuit, l'adoration nocturne du Saint-Sacrement, qui avait été fondée à Paris par un juif, Hermann Cohen, devenu prêtre, devenu carme, le fameux Hermann Cohen, qui sera vraisemblablement canonisé bientôt. Alors, cette adoration nocturne, évidemment, qui se fait la nuit dans les églises, c'est pour les hommes. Les femmes, au milieu de ce siècle, n'auraient pas osé sortir la nuit comme ça. Alors, il consacre son temps, son argent et ses talents à cette œuvre. Il recrute même des membres adorateurs dans toutes les catégories de la société. Il fournit même à ses frais tout le matériel nécessaire à cette œuvre qui lui tient à cœur. Et pendant ce temps, bien sœur Marie de Saint-Pierre, la carmélite, là, qui est une ancienne ouvrière, elle reçoit dans son Carmel de Tours une communication divine, dit-elle. On n'est pas obligé d'y croire. Une communication divine qui est relative au culte de la Sainte Face de Jésus. La Sainte Face, à l'époque, était un dessin, une gravure, que l'on considérait comme inspirée de cette Sainte Face conservée à Rome et qui aurait été vénérée à Rome depuis le IVe siècle. La communication qu'elle reçoit insiste d'abord sur la réparation des blasphèmes et l'établissement d'une association qui aura pour but d'entraîner les gens à aimer et à consoler Jésus, qui est insulté, qui est blasphémé. Car il faut dire qu'il y avait beaucoup de blasphèmes à haute voix par les Chartiers, on lit ça dans la vie de Marie de l'Incarnation, qui a vécu longtemps avant, au XVIIe siècle, et c'était terrible, hein? Des vrais blasphèmes. Dans une vision, Cette carmélite est transportée en esprit, a-t-elle dit, sur la route du calvaire. Et elle voit Véronique, qui serait un personnage légendaire, en tout cas, elle l'a vu, essuyer la sainte face de Jésus qui est couverte de crachats, de poussière, de sueur et de sang. Et cette religieuse prétend avoir entendu les blasphèmes actuels lancés contre la divinité. Elle est au fond son cloître. Et ces blasphèmes qui retombent comme autant de crachats sur la face adorée de Jésus. On sait que les tortionnaires de Jésus ont craché sur sa figure. Alors cette jeune carmélite comprend que la réparation des blasphèmes abominables rend au Christ un service semblable à celui que lui a rendu la dite Véronique. Le Sauveur, Jésus, a pour ses réparateurs ce regard de bonté qu'il a eu pour ceux qui le consolaient sur la route du calvaire. Pensez aux saintes femmes, on voit ça dans les chemins de croix. Comment cette sœur cloîtrée peut-elle espérer répondre à cette voix intérieure et fonder cette confrérie? Alors M. Dupont va devenir son instrument. Il a de fréquents entretiens à ce sujet avec Mère Marie de l'Incarnation, la prieure des Carmélites. Cette dernière lui remet une gravure, justement, comme je vous ai dit, de la Sainte Face, qui est une réplique du voile, considéré comme étant celui de Véronique gardé au Vatican. Alors il allume une lampe devant cette reproduction. Évidemment, il s'agit d'un dessin. Il entretient cette flamme jour et nuit. C'est un peu curieux, tout ça, mais c'est émouvant. Et d'ailleurs, cette dévotion à la Sainte Face, ce dessin, c'est ce qui a inspiré Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, qui a ajouté à son nom, comme vous le savez tous, je l'espère, de la Sainte Face. Elle s'appelait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et des photos qui ont été prises par sa sœur, qui avait une caméra à l'intérieur du cloître à la fin du siècle dernier, on la voit tenant dans ses mains, d'une main un enfant Jésus, une image, et de l'autre la Sainte Face. C'est cette Sainte Face de M. Dupont qu'elle tient. Alors donc, il se fait dès lors le propagateur, enthousiaste de la dévotion à la Sainte Face. Les visiteurs peuvent encore admirer d'ailleurs cette image à l'oratoire de la Sainte Face de Tours, qui est située dans la maison où il vivait, car sa maison a été transformée en oratoire à Tours. J'y suis allé, c'est très intéressant, il y a des messes qui y sont célébrées. C'est une maison assez grande, assez vaste et très intéressante à visiter. Or, Monsieur Dupont obtient une première guérison. Les pèlerins affluent de partout. L'appartement de Monsieur Dupont devient bientôt le centre de rayonnement spirituel de la Sainte Face. Jusqu'à la fin de sa vie, là, Monsieur Dupont reste chez lui en permanence pour accueillir les pèlerins et les adorateurs de la Sainte Face, à compter du jour où il s'occupe de ça. Et ainsi, c'est à l'instigation de cette sœur Marie de Saint-Pierre, la Carmélite, et grâce à Monsieur Léon Dupont, que le culte de la Sainte Face est popularisé, il est adapté à ce temps. Des centaines de guérisons, de conversions, de transformations sont obtenues suite à la vénération de cette image du Christ souffrant. Car cette image permet de découvrir la personne de Jésus, et à plus forte raison au XXe siècle, avec la photo que nous avons du véritable Saint-Suaire de Turin, qui est le linceul authentique du Christ, comme je vous l'ai longuement expliqué dans une émission consacrée au Saint-Suaire de Turin que je vous ai faite il y a quelques mois. Lorsque les malades viennent demander une guérison, M. Dupont les enjoint à commander le bon Dieu avec foi et de dire « Seigneur, guérissez-moi ». Presque un ordre, hein? Il faut, disait-il, prier avec une confiance illimitée et ne pas hésiter. Il faut dire aussi à l'Esprit-Saint, « Esprit-Saint, prends-moi ». Et je vous assure, il va vous prendre. Monsieur Dupont a des relations, d'ailleurs, avec des gens très croyants de son temps. Il y a les relations, évidemment, avec le père Hermann Cohen, ce carme des chaussées, converti du judaïsme, le père Pierre-Julien Aymar, fondateur des Pères du Saint-Sacrement, dont Prosper Guéranger, fondateur de Solem, l'abbaye de Solem, et qui est l'abbaye mère de toutes ces abbayes comme celle de Saint-Benoît-du-Lac et celle de Silos en Espagne, qui nous a répandu le grégorien depuis quelques années. C'est un ami aussi du curé d'Ars. qui lui dit, « Oh mon cher ami, qu'il sera bon de nous trouver un jour dans le ciel à chanter les louanges de notre Dieu. » Et dans sa vieillesse, M. Dupont est affligé de plusieurs maladies qui le rendent très souffrant. Alors le Christ associe à ses souffrances celui qui l'a si bien honoré dans sa sainte face. Et durant son agonie de 8 jours, il répète sans cesse cette invocation. Et c'est étonnant, hein, que j'expire altéré de la soif ardente de voir la face désirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ça me rappelle la mort de maman, le jour de sa mort, je lui approchais la sainte face de sa figure, et elle le regardait. Elle s'est redressée légèrement car elle était mourante, évidemment. Et en le regardant, elle a dit, « Ah, qu'il est beau! Qu'il est beau, qu'il est beau !» Et c'était ses dernières paroles. Monsieur Dupont, il meurt le 18 mars 1876, dans la sérénité, l'entière soumission à la volonté de Dieu. Voici quelques pensées de celui que la foule appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, le saint homme de Tours. N'oubliez pas, c'est un laïc, un père de famille. Dont des pensées tirées de ses lettres. Il a laissé de nombreuses lettres. Il a surtout écrit. C'est assez étonnant, vous pouvez voir ça dans ce livre que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il a surtout écrit à des laïcs. Oui, surtout à des laïcs. Et surtout même à des hommes. Il avait un désir de transformer les hommes qui ne pratiquaient pas assez. Ça le désolait. Il disait, à la messe, il y a eu 1500 communions et 200 seulement d'hommes. Ça le désolait. Il a bien raison. Alors, ce sont aussi des témoignages de ceux qui l'ont connu que je vais vous dire. Sa devise est un peu spéciale. Parler de Dieu ou se taire. Je ne suis pas d'accord. C'est une devise qui dénote une espèce de sentiment trop entier. Trop. Trop, c'est trop. Mais je crois que parler de Dieu, souvent, est une excellente chose quand on croit, sans vouloir ennuyer les gens, et savoir en parler avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse, de respect pour les autres. Et une autre parole un peu discutable. Quel profit peut-on tirer d'un ami qui ne vit pas en la présence de Dieu et en qui notre Seigneur ne règne pas souverainement? Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je dirais qu'on peut tirer un grand profit d'un ami qui ne vit pas en la présence de Dieu et en qui notre Seigneur ne règne pas souverainement. Car le profit que l'on en tire, c'est une amitié profonde souvent, qui naît de là. Et j'ai plusieurs amis qui sont des athées, avec lesquels je m'entends très bien. Et leur souffrance, au fond, je la ressens jusqu'au très fond de mon être. Mais cette souffrance me rend joyeux en même temps, car elle me fait me rendre compte du bonheur et de la grâce que j'ai de croire. C'est un don. Je n'y suis pour rien. Comment se fait-il que je croie? Comment se fait-il? C'est Dieu qui fait ça en nous. C'est l'Esprit Saint. Et nous n'avons pas à mépriser, ou à dédaigner, ou à rejeter qui que ce soit. Au contraire, je serais plutôt porté à aller vers ceux qui ne vivent pas en la présence de Dieu et en qui notre Seigneur ne règne pas, afin d'essayer de leur montrer où est la porte. Mais il y a quelque chose d'excellent qu'il a dit. La chose essentielle, c'est de faire chaque jour un pas de plus dans la voie de l'amour et de se souvenir dans les circonstances qui semblent épineuses que tout coopère au bien des élus. C'est un extrait de l'Épître aux Romains, chapitre 8. Tout coopère au bien des élus. C'est vrai que tout, quand on aime Dieu, tout coopère à accentuer cet amour, même les souffrances. Peut-être pas les trop grandes, peut-être. Il a dit aussi quelque chose d'excellent. Sans la communion, nous sommes imparfaitement chrétiens. Au contraire, si nous nous rendons à la pressante invitation du bon Sauveur, « Venez à moi, vous tous qui peinez », que de grâce nous sont successivement accordées jusqu'à l'accomplissement de cette belle parole de saint Paul, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Il n'y a rien qu'on peut connaître qui soit plus grand que de connaître l'amour du Christ. Quand même qu'on connaîtrait tous les dictionnaires de la terre par cœur, quand même qu'on connaîtrait tout, on ne connaîtrait rien si on ne connaît pas l'amour du Christ. C'est ce que je pense, moi, en tous les cas. Et je suis bien d'accord avec saint Paul. Il faut leur faire l'aumône avec respect, disait-il des pauvres. C'est Jésus que l'on honore en leur personne. Seule la charité chrétienne peut rapprocher les hommes. Et il ajoute, le ciel, voilà où nous devons tendre, ne pas avoir la sainte ambition d'en faire la conquête, c'est imiter l'aigle stupide qui, renonçant à ses ailes, se contenterait de ses pieds. Les renseignements que j'ai me viennent de Jacques Théberge, qui est une sorte de Monsieur Dupont, si on veut, à Montréal. Il a fondé en 88 les Adorateurs de la Sainte Face, et ils sont établis à Montréal, au 76-13 de la rue Christophe-Colomb. 76-13 rue Christophe-Colomb. Je donne le numéro de téléphone, 274-46-90 ou 274-16-54. C'est peut-être mieux, 274-16-54. On peut s'y procurer les livres sur M. Dupont, on peut se procurer toutes sortes de choses. Sur la Sainte Face, particulièrement des images. Et énormément de choses, des médailles sur la Sainte Face. Et il y a le jeudi soir une adoration et une messe. Donc, je vous ai dit qu'il venait de la Martinique. Et à la Martinique, M. Dupont est encore vénéré. Comme nous, ici, on peut dire on vénère le frère André. Ce laïc fut de son vivant appelé donc le saint homme de Tours, mais qui est-il, hein? On peut dire que le Saint-Esprit, dans sa vie, a fait un travail fantastique. Il a accompli, pour Dieu et pour les âmes, des choses extraordinaires. Quand M. Dupont s'installe à Tours, vous savez, en 1834, là, qu'il arrive de la Martinique, il a 37 ans, il est déjà veuf, il demeure avec sa fille et sa mère, et la première chose qui nous frappe dans son cheminement spirituel, c'est que cet homme du monde, car c'est un homme du monde, il s'était imposé un règlement de vie, auquel il va demeurer fidèle jusqu'à sa mort. Il se lève donc très tôt, à 3 ou 4 heures. Je suis allé samedi soir chez un ami profondément croyant, et sa femme me disait, « Ah bien, mon mari se lève tous les matins à 5 heures. » Et moi qui partais un peu tard, à 10 heures, je me disais, oh, le pauvre homme, il n'aura pas de temps pour dormir. Et alors donc, il se lève, lui, à 3 ou 4 heures. Après sa toilette, il faut dire que dans ce temps-là, hein, les gens se couchaient beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Après sa toilette, c'est la prière du matin, la méditation. Avant le jour, il avait le temps et la tranquillité nécessaires pour prier, donc, et méditer. Puis, c'est la messe, aussi matinale que possible. Il y avait des messes très tôt dans ce temps-là, hein, jusqu'à tout récemment, hein. Après le Saint-Sacrifice, il prolongeait même assez longuement son action de grâce. Chez lui, il entretenait son contact avec Dieu par des lectures, particulièrement la Bible. Oui, oui, particulièrement la Bible. Vous direz, mais les gens ne lisaient pas la Bible, c'était défendu aux catholiques. C'est archi-faux. J'ai dans mon... s'il y avait des prêtres qui défendaient ça peut-être, mais c'était pas défendu. Après, j'ai une Bible chez moi, que j'ai une vieille Bible, pas imprimée. À Montréal, une Bible catholique imprimée à Montréal vers 1840. Et pourquoi l'avait-il publiée? Pour que personne ne la lise, alors, mais ça n'a pas de sens. Puis il lisait aussi beaucoup de vie de saint. M. Dupont consacrait son après-midi aux malades, aux pauvres, aux prisonniers. Il faut dire, M. Dupont, je vous le rappelle, était riche et que sa fortune lui permettait de vivre librement, de faire ce qu'il voulait, mais il faisait rien que ce que Dieu voulait. Donc, il travaillait au service des pauvres. Un évêque va écrire d'ailleurs de lui, il fut présent au carrefour de toutes les œuvres de charité de son époque. Et c'est ainsi que les années passent et que M. Dupont grandit en sainteté. On pourrait se demander si nous savons, nous, consacrer au cours de nos journées un peu de temps pour Dieu et pour le prochain. pas absolument nécessaire de copier M. Dupont, qui lui faisait vraiment des choses fantastiques, mais je pense qu'il faut simplement épuiser l'exemple, hein, qui peut améliorer la qualité spirituelle de notre vie, puis notre bonheur, finalement. Léon Dupont donnait beaucoup de temps à Dieu et au prochain, mais nous, nous en perdons tellement de temps, nous flânons devant la télé. Dieu et les pauvres, n'est-ce pas, réclament toutes ces heures perdues, perdues, oui. Les lectures sont un des critères qui permettent peut-être de mieux sonder quelqu'un, et ces lectures nous indiquent ses idées, ses tendances, ses manières de juger le monde et les hommes. Alors, M. Dupont était un homme très cultivé. Son métier, ses études, est un magistrat, son milieu familial lui ont procuré cette culture. Nous savons que peu à peu, M. Dupont abandonne les lectures profanes pour consacrer finalement tout le temps réservé à la lecture uniquement aux auteurs qui parlaient de Dieu. C'est curieux, hein, ça arrive, ça, dans la vie. On finit par ne plus être capable de lire les romans qu'on aimait, de ne plus être capable de lire toutes sortes de choses qui nous intéressaient. On essaie, on ne peut plus. On essaie de regarder un film profane, si bien fait soit-il, et tout à coup, au bout d'un quart d'heure, on se dit « Oh, je vais prendre ma Bible à la place ». C'est très étrange, et peut-être quand on a un pied dans la tombe. Sa devise nous indique derrière l'orientation fondamentale de son cœur. Il dit parler de Dieu ou se taire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que sa devise, il a dû la prendre sur les derniers temps de sa vie, et pas quand il était plus jeune, évidemment, hein. Et cette concentration sur les lectures spirituelles s'est faite progressivement chez cet homme, au tempérament entier, hein, mais un peu original peut-être. À Tours, d'ailleurs, il lisait beaucoup, et peu à peu, les œuvres ont absorbé une grande partie de son temps libre. Et la culture diminuait, les lectures culturelles. Il a publié quelques ouvrages. Il était abonné au Mémorial catholique et à l'Univers, ces deux revues auxquelles il a porté de l'intérêt, c'était des revues catholiques, un peu de droite. Ces deux publications, d'ailleurs, exprimaient la pensée catholique de son époque. Et M. Dupont, à lire tout ça, a développé un immense amour pour cette Église qui était en grande difficulté, comme elle l'est souvent. Et avec le temps, M. Dupont a trouvé que le Mémorial, là, ça correspondait pas tout à fait à ses idées. Il a abandonné même cette revue. Il était très exigeant. Il versait un peu vers la droite, hein. Il exigeait d'un écrit la vérité. Dans une de ses lettres, on peut lire ceci, « La véritable charité consiste à ne pas cacher aux ennemis de Dieu, de l'Église et de l'humanité le danger qu'ils courent. C'est ce que vous faites avec vos amis, et je crois qu'il n'y a guère d'autre moyen de se faire du bien à soi et d'en faire aux autres. » Il devient très exigeant. C'est ce qu'il mène, avec ce petit défaut, vers la sainteté. C'est curieux comme Dieu prend des moyens un peu étrange parfois avec certaines personnes. Et M. Dupont comprenait l'énorme puissance de ce que l'on appelait la bonne presse. Ce n'est pas l'argent qui mène le monde, ce sont les idées, disait-il. Et le saint homme de Tours bien considère la mauvaise presse comme cette ouvrière infatigable du diable, disait-il. Mais c'est un peu vrai dans un sens. Quand on pense à toutes les revues, disons le cochonne, bon, excusez mon vocabulaire, toutes ces revues abominables qu'on voit sur les rayons un peu partout dans Montréal, c'est insensé. On va chercher le monde diplomatique avec son petit-fils, et on voit un paquet d'hommes à côté, qui contemplent et feuillettent des revues insensées, où l'on considère la femme comme un objet, je veux pas utiliser le vocabulaire qui me vient à la bouche, mais en tous les cas comme un pur objet de satisfaction. Les satisfactions les plus basses, les plus imbéciles et les plus irrespectueuses de ce qu'est la femme. Une femme, c'est toujours la fille de quelqu'un. C'est toujours la sœur de quelqu'un. C'est souvent l'objet de l'amour de quelqu'un. C'est souvent l'épouse de quelqu'un. C'est souvent la mère de quelqu'un. Comment peut-on? Moi, ça me révolte en tous les cas. Je suis fatigué de voir toutes ces choses, tous ces petits journaux qui nous racontent les choses les plus insensées. Il avait bien raison, Monsieur Dupont. Et dans ses lettres, il recommande à ses amis de lire les volumes qu'il a médités et lus lui-même. Il achète plusieurs exemplaires, souvent des meilleurs livres. Il en fait la distribution. Il transcrit les extraits qu'il frappe et qui l'aident à être meilleur. En 1847, il publie, je vous ai dit qu'il avait publié, chez MAM, il publie « Des pensées sur l'amour de Dieu ». Quel beau titre, hein? « Des pensées sur l'amour de Dieu ». Ce qui caractérise M. Dupont, c'est surtout l'usage qu'il fait de la Bible. Il sait que le chrétien doit se nourrir des Saintes Écritures, qu'il doit les lire et les méditer chaque jour. Ses lettres, ses conversations, ses causeries sont cousues d'ailleurs de passages de la Bible. Il était comme imbibé de la Bible. Je vous le rappelle, ça se passe au milieu du 19e siècle, tout ça. Monsieur Dupont a vécu une longue vie, dans laquelle il a eu le bonheur de rencontrer des milliers de personnes de toutes les couches de la société. Il était d'une grande discrétion, toujours accueillant. Il ne cherchait pas beaucoup à aborder les gens. Il était un peu trop discret, peut-être. Il a fréquenté les grandes personnalités religieuses de son époque, je vous en ai nommé tout à l'heure. Mais il a fréquenté aussi, j'ajoute, Madame Barra, qui est connue aujourd'hui comme Sainte Madeleine Sophie Barra, la fondatrice des Dames du Sacré-Cœur ou des Sœurs du Sacré-Cœur. Je vous ai mentionné tout à l'heure le Père Julien Aymard, Saint Julien Aymard. Et ce fameux Père Hermann Cohen, fondateur de l'adoration nocturne, dont Guéranger, je vous l'ai dit, et Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, et le fameux Père Moreau, le fondateur de cette grande famille de Sainte-Croix, là, les Pères de Sainte-Croix, les Sœurs de Sainte-Croix. Il a fréquenté aussi une sainte dont je vous parlerai bientôt, le mois prochain, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, la fondatrice du Bon Pasteur, et des dizaines d'autres. Imaginez, des saints qu'il a connus. Il sait que les amitiés qui ont Dieu pour centre peuvent durer toujours et que nous devons aimer pour l'amour de Dieu. Alors, Monsieur Dupont est un homme spirituel, sans que cette élévation mystique qui l'habite l'éloigne des réalités humaines. Il répond aux demandes financières des œuvres qui le sollicitent. D'ailleurs, il est principal marguis de la cathédrale, il s'occupe des finances de la cathédrale. Il s'inquiète aussi de la santé de certaines personnes qui tardent à lui écrire. Il se demande parfois s'il n'aurait pas blessé quelqu'un dans une lettre, car il est très sensible. Ceux qui le visitent doivent se considérer comme chez eux. Aussi, il a accepté d'être le parrain d'un grand nombre d'enfants. Hein. Imaginez, il offre une aide spirituelle et matérielle à ses 40 filleuls. 40 filleuls. Moi qui pensais que j'en avais beaucoup, j'en ai 5. Ses amis ont recours à lui très souvent. Il correspond abondamment avec ses amis et ses filleuls. Il prodigue ses conseils. Il offre son aide. Et même le gîte. Hein? Je cite un extrait d'une lettre à Laure Berteville, qui n'a plus de famille. Alors elle se tourne vers son parrain, puis lui écrit « La chose essentielle ». C'est de faire chaque jour un pas de plus dans la voie de l'amour et de se souvenir dans les circonstances qui semblent épineuses que tout coopère au bien des élus. C'est cette phrase que je vous ai citée tout à l'heure et qui est une de ses plus belles. Et il ajoute, profitons de tout, ma chère Laure, pour marcher en la présence de Dieu et suivre les pas de Jésus. Marcher en la présence de Dieu. Savoir qu'on est toujours en présence de Dieu et que Dieu nous habite. Nous sommes inséparables de Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en lui. C'est moi qui ajoute ça. Et comme tous les amis de Dieu, bien, M. Dupont a un cœur ouvert à tous, à chacun. L'amour de Dieu dilate le cœur. Il lui donne des horizons immenses. Hein, il voit tout ce qui se passe. Il cherche Dieu. Il trouve des amis qui peuvent partager son idéal. La foi chez M. Dupont, elle est simple, comme celle d'un enfant. Il n'y a pas de biaisement possible chez lui au niveau des vérités révélées par la Bible et l'Église. Vous souvenez-vous de l'acte de foi qu'on récitait quand nous étions jeunes? Eh bien, pour lui, c'est un acte qu'il dit tous les jours. « Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église catholique croit et enseigne, parce que c'est vous qui l'avez dit et que vous êtes la vérité même. » Alors, cette adhésion, cette foi profonde et nourrie par la Bible que M. Dupont, je vous l'ai dit, lit avec amour et qu'il médite tous les jours. Sa foi en Dieu le porte d'ailleurs à aimer solidement l'Église. Et pour lui, cette Église est l'organe, comme on dit, de la révélation divine. C'est elle qui possède cette révélation et qui l'explicite. Elle a l'autorité pour le faire. Jésus a bien dit au premier pape, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors il aime le pape comme un fils aime son père. Il est affligé quand le pape est triste. Il se réjouit de ses joies. À son époque, c'est le pape Pie IX qui est chef de l'Église. Nous savons combien son règne a été orageux, hein? Et pour Louis Dupont, Rome, dit-il, est le foyer de la foi. Alors devant les difficultés de l'Église, il fait appel à la force de la prière. Et c'est alors la naissance à Tours de l'adoration nocturne dont je vous ai parlé, dont il est le pionnier dans toute cette région. Alors vis-à-vis de son évêque, il a le même sentiment qu'envers le pape. Il lui est arrivé d'être en divergence d'opinion avec son évêque, spécialement au sujet des révélations de la sœur Saint-Pierre, hein? Et de la reconstruction aussi de la basilique Saint-Martin. Il y a des ruines immenses à cette basilique Saint-Martin à Tours, c'est en banlieue de Tours. Hein? Mais il demeure toujours respectueux et soumis aux autorités du diocèse de Tours, mais il grogne un peu. La foi de M. Dupont dépasse le seul livre de la Bible. Il se nourrit aussi des révélations privées qu'il étudie, analyse à la lueur de ses connaissances bibliques. Il croit parfois qu'il va un peu trop loin d'ailleurs, il l'admet. Ces révélations quand même l'aident à mieux aimer Dieu, dit-il. Il a l'habitude de tout voir, de tout faire à la lumière de la foi. C'est Louis Veuillot qui va écrire de lui. Oui, Louis Veuillot qui l'a connu. Quant à M. Dupont, je le connais personnellement. Il a un esprit charmant. Un zèle que rien n'arrête, et une foi à transporter les montagnes. Quelqu'un d'autre qui écrivait, sa foi éclatait dans toutes ses actions, ses paroles, dans toute sa personne. Elle éclatait aussi dans ses prières. Un prêtre trouvait que sa foi était plus qu'une série d'actes, c'était un état de vie. Monsieur Dupont, d'autre part, je vous le rappelle, un homme cultivé, instruit, lit beaucoup, il réfléchit. Il livre ses pensées sur la foi et il écrit « Je ne demande pas de voir vos plaies glorieuses au Seigneur mon Dieu, mais je vous supplie de les imprimer sur moi afin d'être reconnu par vous comme un de vos membres au jour de ma mort. Une foi toute pétrie de simplicité peut obtenir du bon Dieu les miracles. Rien n'est plus facile, dit-il. » Il sait que Dieu l'appelle au ciel. Et qu'au long de cette vie, ce même Dieu accorde les grâces nécessaires pour se sanctifier. Alors, M. Dupont parle souvent du ciel, et c'est toujours avec un immense enthousiasme. Il bondit de joie, cette seule pensée. Comme le confirme un témoin, ce M. Viot, hein, V-I-O-T, l'espérance est sa force dans les plus dures épreuves de sa vie. Nous le voyons par la mort de sa femme, de sa fille et de sa mère. La longue maladie des dernières années de sa vie en témoigne aussi. Et dans ses écrits, nous lisons « L'espérance, jouissance anticipée, prise de possession du ciel, comme elle élève nos ambitions. » Or, son amour du prochain est immense. La vie de Louis Papin Dupont est un acte perpétuel, Léon Papin Dupont, est un acte perpétuel de charité. Il est difficile de faire un choix quand on sait que M. Dupont est au carrefour de toutes les œuvres de charité de son époque. M. Dupont a choisi une existence obscure afin de mener une vie de prière, de mortification. Ses talents et son instruction lui promettent une brillante carrière. Alors l'amour de Dieu anime toutes ses actions. Dieu l'aide à voir dans chaque pauvre, chaque malade, chaque prisonnier, son frère, à encourager, à soutenir et à sauver. La charité de M. Dupont, c'est pas un mouvement de pure philanthropie, là, comme on voit souvent, ou un mouvement de sensibilité passagère, un geste passager, là. C'est un geste, on dirait, de religion, d'adoration. C'est constant chez lui. Et c'est Dieu qui est à l'origine de ça. C'est Dieu qui lui donne ce dynamisme. C'est Dieu qui est au centre. Dieu est le principe de toute son action. Il écrit d'ailleurs cette prière, « Je veux, avec le secours de votre grâce toute puissante, trouver en tout, partout et toujours des motifs impérieux d'amour. Dans la prospérité, les douceurs de l'amour, dans les peines, dans les consolations de l'amour, dans les souffrances, dans l'amour en esprit d'immolation et de sacrifice qui purifie. Il faut donc beaucoup aimer, surtout quand on a beaucoup péché. » Alors, M. Dupont vit le grand commandement de l'amour selon l'ordre établi par Dieu lui-même. C'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Alors, quand il fonde l'adoration nocturne, il écrit, « Puisque le jour est pris par les affaires, donnons à Dieu la nuit et devenons ses amis, les auxiliaires de Jésus. » Alors, il a une passion pour l'Eucharistie. Il écrit, « Si je connaissais un endroit de la terre où l'on peut communier plusieurs fois par jour, je quitterais tout pour y aller demeurer. » C'est un peu blagueur, hein? « Tu aimeras ton prochain. » Léon Dupont dirige sa charité d'abord vers les pauvres. Il fait l'aumône avec respect, car c'est Jésus qui l'honore en leur personne. Ils font d'ailleurs le vestiaire de Saint-Martin afin de secourir les pauvres. Personne ne rencontre M. Dupont sans avoir pu bénéficier de sa charité. Les nantis, les pauvres, viennent à lui. Et tous repartent plus riches et plus édifiés. La charité de Léon Dupont se vérifie aussi dans ses paroles. Il se garde d'ailleurs de toute malveillance. On dit jamais il ne lui échappait une parole de critique, ce qui ne l'empêchait pas à l'occasion, surtout pour les blasphèmes, de faire respecter en sa personne la dignité de chrétien. Et quand il est à bout de ressources, il lui arrive de sacrifier des objets auxquels il tenait. Un jour, pour aider une pauvre dame à payer son loyer, tiens, il lui donne sa précieuse tabatière. Oui, il prisait. Afin qu'elle puisse la vendre, sa belle tabatière. Une belle tabatière, ça vaut cher. Et comme ça, elle pouvait régler son loyer. Il y a maintes histoires comme ça de ce genre dans la vie de ce laïc, de ce saint. Sa charité est discrète et humble, d'ailleurs. Les années si importantes qui précèdent sa mort, M. Dupont les vit dans le rayonnement de la Sainte Face. Il continue humblement sa tâche. Il aime le Seigneur, il le sert. Il pense aux péchés des hommes. En 1871, c'est une année troublée pour la politique en France, ainsi que l'insurrection. Alors, M. Dupont ne reste jamais insensible au péril de sa patrie. Alors, il s'écrit, « Quand se mettra-t-on vraiment à aimer dans ce Paris devenu ville de haine ?» Il souffre, il prie pour sa patrie, il aime la France. Il récite souvent les litanies des saints, auxquelles il confie la protection de la France, car si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, on trouve ça au psaume 126. Et avec les années, bien, M. Dupont est devenu très souffrant. Il gravit peu à peu ce calvaire. Il devra s'étendre sur la croix, et c'est là que se scelle l'authenticité des œuvres qui doivent durer. La maladie va l'unir concrètement à la sainte face de Jésus et lui permettre de recouvrir d'amour bien des péchés, dans une attitude de douceur et de patience. Il a demandé sa guérison, mais voyant que Dieu a d'autres plans sur lui, bien qu'il ne lui envoie aucun soulagement même, eh bien, il embrasse la volonté de son Seigneur. En 1876, la maladie s'aggrave. Le mouvement de ses mains devient très, très douloureux. Une forme d'arthrite, c'est la goutte aussi. Il s'écrit, « C'est un martyr pour moi que d'écrire. Et c'en est un de me relire. » Toutes ses infirmités sont vécues dans la paix et l'abandon d'un fils qui aime son père. Dieu. Il écrit encore Fiat. Le principal et l'essentiel, c'est d'arriver à la connaissance de l'amour de Dieu. Imaginez, c'est très beau à cette époque. On croit qu'on vient de découvrir avec le père Varion et d'autres grands théologiens de notre siècle l'amour de Dieu. Et voilà, ce qu'il dit en 1876, il y a 120 ans. Le principal et l'essentiel, c'est d'arriver à la connaissance de l'amour de Dieu. Je vous ai dit qu'il souffrait de la goutte. Vous connaissez ça, c'est un excès d'acide urique dans le sang. Ça rend très douloureux toutes les articulations. Et ça fait beaucoup de progrès chez lui. Alors, Léon Papin Dupont souffre des pieds à la tête. Tout ce qu'il peut faire, c'est de prier. Un ami qui est témoin de ces années-là nous dit « C'est assez de le savoir là, priant continuellement. » Il nous semblait faire à lui seul l'effet de tout un monastère. À cette époque, en 1874, il découvre un texte qui lui apporte beaucoup de consolation. Il en fait l'objet de ses méditations. C'est une prière à Saint Aimon, archevêque de Canterbury. Canterbury en anglais, là, Canterbury. Vous savez, c'est le siège du primat de l'Église anglicane, mais c'est au fond le siège du primat de la grande Église d'Angleterre, qui est séparée de nous, hein. Dommage. À cette époque, Saint Aimon était catholique, l'archevêque de Canterbury, ce n'était pas séparé de nous. Et cette prière, c'est la suivante. Ô bien-aimé disciple de Jésus, obtenez-moi du Seigneur l'heureuse fin qui vous a été accordée à vous-même et la belle mort des saints. Que je termine ma vie dans la vraie foi, l'espérance ferme, la charité parfaite. Que, conservant mon intelligence saine et un esprit lucide, je puisse confesser sincèrement mes péchés, me munir du viatique du salut et de l'onction des mourants, que j'expire altéré de la soif ardente de voir la désirable face de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque vendredi, on lui porte la Sainte Communion. Pour recevoir son Dieu, il fait garnir la maison des fleurs de son jardin. Au début de mars, la paralysie fait beaucoup de progrès. Il doit rester alité. Il est véritablement cloué à la croix. Le 2 mars, on lui administre l'onction des malades, qu'il reçoit pleinement conscient. En s'unissant aux prières, il souffre sans se plaindre. Mais Satan veut lui faire subir un dernier assaut. Ça arrive au moment de la mort, et M. Dupont dit à Adèle, sa fidèle servante, « Satan vient de me faire des promesses, le misérable. Il faut y jeter de l'eau bénite. » Alors sa vie s'achève. Et le 18 mars, à 4 heures du matin, il peut enfin, contempler la face adorable de celui qu'il aime de tout son être. Et voilà comment meurent les amis de la sainte face de Jésus. Puissions-nous trouver dans cette dévotion, que je dirais primordiale, en quelque sorte très importante, la persévérance et la paix jusqu'au séjour des cieux. Je ne saurais trop vous recommander d'avoir la sainte face de notre Seigneur chez vous. Le corps de M. Dupont fut exposé dans le salon qui avait reçu tant de visiteurs. Toute la ville vint le voir. Il y a 6000 personnes en une seule journée qui sont venues. Son corps est enterré près de sa fille et de sa mère. Et le Carmel a acheté sa maison. C'est devenu un centre de la Sainte Face à Tours. Il sera béatifié bientôt. En 1983, Jean-Paul II a approuvé les miracles en vue de la béatification. Monsieur Léon Papin Dupont, connu sous le nom du Vénérable Monsieur Dupont. Si vous voulez des renseignements sur la Sainte Face, vous téléphonez à 274-1654. Chez les adorateurs de la Sainte Face, 7613 rue Christophe Colomb à Montréal, H2R 2S8.